Le domaine des possibles, une émission proposée par Christian Faure.
Amis auditeurs du domaine des possibles, bonjour. Dans notre monde où l'on voit apparaître de plus en plus d'initiatives citoyennes avec la volonté de proposer des solutions ou des alternatives au monde dans lequel nous vivons, dans des domaines aussi divers que le domaine social, la démocratie, la citoyenneté, l'écologie, l'éducation ou le travail, dans ce monde-là, disais-je, vient d'émerger un nouveau projet à l'initiative d'une quarantaine d'organisations associatives et syndicales, telles que le réseau Action Climat, dont fait partie Alternatiba, la CFDT ou ATD Carmonde, pour ne citer qu'elles. Ce projet se traduit par la rédaction d'un pacte pour le pouvoir de vivre, constitué de 66 propositions qui touchent à la justice sociale, à la transition écologique et à la lutte contre les inégalités, et à l'ambition de porter ces propositions, d'en faire la promotion et de sensibiliser les femmes et les hommes politiques à la nécessité de soutenir et de mettre en musique ces 66 propositions, ou une partie d'entre elles, par des actions concrètes, tant au niveau local que national. Dominique Schalchli, notre invité d'aujourd'hui, qui anime à Montpellier le groupe local porteur de ce pacte, à savoir des représentants des structures fondatrices, va nous expliquer en détail en quoi consiste ce pacte, quels sont ses grands axes de réflexion et de quoi sont faites les 66 propositions qui le composent. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Dominique, vous représentez ici le collectif local de ce pacte militant, et vous êtes militant, à la fois de la CFDT dont vous êtes membre depuis très longtemps, je crois, et du pacte civique, deux structures signataires de ce pacte. Alors j'aimerais que vous nous disiez un petit peu comment a germé l'idée de ce pacte et comment on en a finalisé la rédaction. Je sais qu'au départ, il y avait une vingtaine d'organisations qui s'étaient regroupées, je dirais, pour le rédiger peut-être. Et puis que petit à petit, il y a de plus en plus d'organisations qui signent ce pacte.
On est une quarantaine maintenant.
Voilà, c'est ça. C'est le chiffre que j'avais. Ça n'a pas évolué depuis, donc on est une quarantaine. Donc,
nationalement.
Oui, nationalement.
D'accord.
Donc, ça serait bien que vous nous fassiez un petit peu la genèse de qui c'est venu et comment on est arrivé à rédiger ces 66 propositions.
Il y a des genèses de long terme.
Ouais.
Ça fait longtemps que les milieux syndicaux associatifs, je dirais, cohabitent ensemble.
Mm-hmm.
Hein? Depuis, je me souviens même, il y a 50 ans, quand j'étais tout jeune, quand j'avais 25 ans, il y avait les militants syndicaux, puis c'était les femmes qui étaient dans les associations.
Ouais.
C'était terriblement sexiste à ce moment-là.
C'est bon. Vrai.
Non, donc ça veut dire qu'il y avait déjà une première cohabitation. Bon, il y en a eu, ça a continué comme ça pendant un certain temps. Il y a eu, à un moment donné, un réseau qui s'appelait Alerte, qui était un réseau d'information commun.
Mm-hmm.
Bon, donc il y a, je dirais, il y a de petites habitudes de travail en commun qui existent depuis longtemps.
Mm-hmm.
Mais ceci dit, c'est de la cohabitation, c'est-à-dire que chacun était dans son île, hein.
Ouais.
Même s'il y avait un archipel qui les réunissait un petit peu. Bon. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il y a une espèce de mayonnaise qui prend? Moi, je crois qu'il y a deux choses importantes qui se sont passées. La première, c'est l'impression qu'on a à la fois dans le monde syndical et dans le monde associatif que on n'est pas écouté. Qu'il y a une espèce de, je dirais, pas de mépris, c'est un peu trop fort, mais enfin, d'indifférence des pouvoirs publics en général par rapport à ce qu'on appelle les corps intermédiaires.
Ouais.
Et que moi j'appelle les citoyens organisés. Je préfère plus
ouais,
ça.
Ouais.
Alors ça, la première chose, cette impression-là, forte, on se dit c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis la deuxième chose qui s'est passée, c'est les gilets jaunes.
Ah oui.
Eh oui, les gilets jaunes, ils n'ont pas eu besoin de ces associations intermédiaires. Ils ne les connaissaient pas, d'ailleurs, pour beaucoup. Ils ont un peu travaillé avec les syndicats, ils ont un peu travaillé avec telle ou telle association citoyenne,
vrai.
Mais ils sont pas partis de ça. Et donc, ça nous a amené à une réflexion, ça a amené au niveau national, à une réflexion sur le fait qu'on était dans une période un peu charnière, où c'était important que les citoyens organisés se regroupent et parlent un peu d'une voix, si c'est possible, commune. Voilà.
D'accord.
Alors, c'est jamais tout le monde à la fois, mais ça a une volonté de rassemblement forte.
Il y a un peu aussi ce qu'on sent de plus en plus en ce moment, de ce problème quand même d'urgence climatique. Et...
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on dit, il n'y a pas que nous qui le disons, on dit justice sociale, justice climatique, ça doit aller ensemble.
Oui.
Hein, ça doit aller ensemble, mais c'est bon. C'est-à-dire qu'opposer fin du monde et fin de mois, ça n'a pas de sens. Ceci dit... le dire, il y a plein de gens qui le disent.
Oui.
Essayer d'avancer concrètement pour le faire, c'est autre chose, hein.
Oui.
C'est un peu plus compliqué, hein.
Bien sûr.
C'est un peu plus compliqué.
On est bien d'accord. On
donc
est bien
alors
d'accord
voilà, l'idée, c'est parti de ça. Et donc les ceux qui se sont réunis au niveau national, c'est 20 associations.
Oui. Et sont à l'origine du projet.
À l'origine du projet. Bon, ils ont essayé de faire de faire deux choses. La première, c'est de faire des propositions et pas simplement des interpellations.
Oui.
Sortir du yak à faucon, c'est-à-dire si on fait des propositions, c'est qu'on est capable de s'impliquer dedans.
Oui.
On dit pas simplement, il faudrait que vous fassiez ça, les pouvoirs publics. Sur un certain nombre de points, on dit, on est capable, nous, d'apporter notre force constructive.
On a des idées,
on est prêt à s'y mettre. Mm-hmm. Hein. On est prêt à mouiller la chemise, ça c'est la première idée. Et la deuxième idée, c'est que le risque... c'est qu'on arrive à un catalogue de 300 mesures.
Oui.
Hein alors, croire, ouais. Par rapport à ça, il y a eu un premier temps où il y a eu le premier élément, la fondation du pacte, au début du mois de mars, 66 propositions.
Ouais.
Dans le domaine social, dans le domaine politique, dans le domaine écologique.
Mmh.
Et puis là, il y a quelques temps, il y a une huitaine de jours, une proposition des signataires du pacte, il y a eu une conférence de presse le 17 mars, donc il y a très peu de temps,
mm-hmm.
en mettant l'accent...
17 juin,
hein, en mettant l'accent sur 8 mesures considérées comme prioritaires.
Ah oui.
Voilà.
Qu'ils ont sorti des 66, donc.
Oui, qui sont sortis des 66, ouais. Et où en commun, les signataires se disent, bah, voilà, il faudrait qu'on mette l'accent là-dessus.
D'accord.
Alors, dans ces mesures, il y en a qui sont des mesures purement nationales.
Mm-hmm.
Je vais les prendre, là je les ai devant moi. Hein.
Mm-hmm.
Quand on dit revaloriser les minima sociaux et les faire évoluer au même rythme que les revenus du travail,
oui.
C'est évidemment au niveau national que ça va se décider, se discuter.
Bien sûr.
Quand on dit un projet de loi de finances 2020, écologique et social, c'est évidemment au niveau national que ça va se discuter. Quand on dit un projet de loi de finances sur la sécurité sociale qui soit solidaire et qui... pour 2020, c'est évidemment au niveau national.
Mmh.
En revanche, il y en a d'autres qui peuvent se traduire concrètement à des niveaux beaucoup plus locaux.
Locaux, oui.
Hein? Comme par exemple, si on dit en finir avec les logements indignes,
oui.
On peut faire des choses localement. Si on dit évaluer l'impact de toute politique publique sur les 10% les plus pauvres de la population,
oui.
On peut faire des choses localement. Hein?
Mmh.
Si on dit... systématiser la proposition d'accompagnement humain à l'exercice des droits, et généraliser les maisons de services publics, on peut faire des choses localement. Mmh. Si on dit permettre aux migrants qui se trouvent en France de déposer leur demande d'asile plus facilement, on peut faire des choses
tout à fait,
localement.
Oui, oui donc voilà. On sent bien qu'il peut y avoir un niveau purement national et puis plein de niveaux locaux. Et j'imagine qu'il y a des métropoles qui peuvent s'emparer d'un problème et d'autres métropoles d'un autre, suivant comment ils sont concernés par les migrants, par exemple, qu'on va trouver plus dans une ville que dans une autre.
Oui. Alors, y a le risque qu'il y avait avec cette histoire-là, évidemment,
ouais.
C'est la grande tribune nationale avec des têtes de gondole. Hein. Là, il y avait Laurent Berger, il y avait Nicolas Hulot, il y avait le président de l'UNIOPS, Patrick Doutreligne, il y avait des nationaux, quoi.
Ouais, oui.
Ils font une belle tribune ensemble, c'est médiatisé, puis 15 jours après, il n'y a plus rien.
Ouais.
C'est le feu de paille.
Mm-hmm.
Ça, ce risque-là, il était grand.
Ouais.
Il était grand. Je crois qu'on n'y est pas tombé.
D'accord.
On n'y est pas tombé pour deux raisons. La première, c'est que les nationaux, ils sentaient bien que la période, c'est pas n'importe quelle période, c'est ce qu'on disait au début de l'entretien,
ouais.
Là. C'est une période critique, hein. Je dirais qu'on est sur un trapèze. Hein.
Oui, parce qu'on parle donc des gilets jaunes, effectivement, qui est une véritable, enfin, qui est révélateur d'une véritable crise sociale. Et On parle aussi de d'effondrement écologique. Donc effectivement, on est un peu sur un trapèze et on ne sait pas très très bien comment on va s'en sortir. Donc ça, sur ce plan-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc, on a bien vu les problématiques qui sont abordées par le pacte du pouvoir de vivre. Ce dont j'aimerais qu'on parle maintenant, c'est un petit peu de savoir comment vous envisagez... Parce que, les 66 propositions, elles ont été rédigées, on les a mises à la disposition du public, elles sont accessibles sur Internet, mais à partir de ces propositions-là, comment peut-on agir? Quels vont être vos moyens d'action?
D'accord, alors... On en parle en termes de contenu et en termes de méthode, si vous voulez.
Oui, hein, d'accord.
En termes de contenu, je vous ai dit, au début 66, elles existent toujours, les 66
oui,
propositions.
Bien
hein.
sûr.
On peut toujours aller, il y a un site du pacte du pouvoir de vivre.
Oui.
Hein. On fait pouvoirdevivre.fr, pof, on tombe sur les 66 propositions. Mm-hmm. Il y a déjà eu un premier travail au niveau national qui consistait à prioriser. Je vous ai dit qu'il y en avait 8 qui étaient priorisés. Et nous, on fait, en termes de contenu, on est en train de faire un travail, nous, localement, pour se dire quelles sont les propositions qui nous paraissent le plus correspondre à ce qu'est notre environnement, la métropole de Montpellier.
Mmh.
Je prends 3 exemples. C'est pas forcément ceux-là qui vont être retenus, mais je les prends quand même parce qu'ils sont parlants. Premier exemple, les étudiants pauvres.
Oui.
Montpellier, 60 000 étudiants à peu près, je ne sais plus exactement le chiffre, mais c'est cet ordre-là.
Mm-hmm.
On sait qu'il y a plein d'étudiants pauvres. Moi, j'ai rencontré, l'année dernière, ça m'avait frappé, j'ai rencontré un type qui est étudiant à Montpellier et vit dans sa bagnole.
Ah oui.
Il vit dans sa bagnole, il est étudiant à Montpellier, il n'a pas trouvé de quoi se loger, il vit dans sa bagnole parce qu'il veut continuer ses études à Montpellier.
Ah oui.
Bon. D'autres, je discutais avec une copine il y a quelques jours qui me dit, mais tu ne te rends pas compte, il y a de la prostitution étudiante à Montpellier.
Oui, ça, je crois, hélas, que ça existe un peu partout.
De personnes, filles ou même garçons,
ouais,
qui ont des problèmes pour payer leurs
études. Pour financer leurs études,
bon, ouais. C'est pas de la prostitution régulière.
Oui, oui, je comprends.
C'est très occasionnel.
Ouais, bon, ouais,
voilà.
Ouais.
Donc là, il y a un problème, par exemple, les étudiants pauvres à Montpellier.
Mmh.
J'en prends un deuxième, je prends toujours sur la nature sociale. C'est la question des familles monoparentales.
Oui.
Macron, on l'a évoqué. Il l'a évoqué, puis après, il est passé à autre chose.
Oui, hein, c'est ça le problème.
Ouais, bien sûr. Les familles monoparentales à Montpellier, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un deuxième sujet.
Oui, c'est très souvent des femmes seules, je crois.
Très souvent des femmes seules avec enfants.
En détresse. Hein. Parce que
alors, en détresse financièrement, psychologiquement.
Voilà. Ouais, ouais. Parce que les pensions alimentaires ne sont pas versées, etc.
Oui, oui, mais Puis élever tout seul des enfants, quand
c'est
on a une femme, c'est difficile. Hein,
c'est très compliqué.
Des enfants, c'est très compliqué.
Ouais.
Bon, j'ai pris ces deux exemples-là. On peut prendre l'histoire des logements.
Oui, oui. Ouais. Ouais.
Bon, on peut en prendre comme ça, on pourrait en prendre d'autres. J'ai pris ceux-là. On peut prendre Montpellier est une ville où il y a à la fois plus de jeunes et plus de vieux qu'ailleurs.
Ouais.
Il y a des expériences très homéopathiques aujourd'hui, d'intergénérationnel. Il faut le développer fortement.
Mmh.
Bon, voilà. Quelques exemples de contenu. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Là, je vais parler méthode maintenant.
Mm-hmm. Peut-être on va écouter un petit morceau de musique et puis après, on parlera méthode.
Allez.
Je vous laisse présenter le morceau de musique que vous avez choisi.
Ben, j'ai choisi, justement, j'ai parlé de trapèze à l'instant.
Oui.
Je trouve qu'en ce moment, c'est le cirque.
Oui,
à la fois, c'est le cirque et on ne sait pas où on va. Quand on est sur un trapèze, on va à droite, on va à gauche.
On est en équilibre stable.
On équilibre stable. On peut à la fois tomber et en même temps, on peut faire de très belles choses sur un trapèze. Il y a des gens qui se raccrochent, qui font des sauts pairs, qui se retrouvent, qui se redonnent la main. C'est cette espèce d'image de moments éthérés me paraît correspondre complètement à la période. Puis en plus, j'adore Bachung.
Bon, bah, c'est une bonne raison.
On dirait qu'on se lire sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings on est toujours aussi balèze et que les fenêtres nous apaisent. On dirait que l'on soufflerait sur les braises. On dirait que les pirates nous assiègent et que notre amour c'est le trésor. On dirait qu'on serait toujours d'accord. J'ai traqué les toujours des EC, les DS. Goûter aux alentours, souvent changer d'adresse. Ceux qui nous entourent, l'extension de nos corps. Quand nous sommes à l'écart, mineurs, chercheurs d'or. Qu'est-il être pour, que faut-il être encore? Quand faut-il être pour, que faut-il être encore? On dirait qu'on s'est lié sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings on est toujours aussi balèze et que les fenêtres nous apaisent. Peut-être que la nuit, le monde fait la trêve. Et qu'aujourd'hui, ton sourire fait grève. On dirait qu'on s'est lié sur les lèvres. Et que l'on tient tous les deux sur un trapèze.
Nous sommes aujourd'hui avec Dominique Schalchli pour parler du pacte du pouvoir de vivre, ce pacte qui a été rédigé par une quarantaine d'associations et de mouvements, comme on l'a dit en début d'émission. Donc on a parlé un petit peu du pacte du pouvoir de vivre au niveau national, de manière un petit peu globale. Et on avait commencé, avant cette pause musicale géniale, à parler des façons de travailler un petit peu au niveau local. Et donc on a parlé du contenu, il faudrait qu'on parle maintenant de la méthode de travail que le pacte envisage.
Alors, au plan local, aujourd'hui, on est 10 organisations qui font partie des signataires nationaux et qui existent sur le plan local, à s'être regroupés. Mm-hmm. On est 10 à s'être déjà regroupés.
Oui.
Il y en a 3 ou 4 qui sont en attente, ça va venir, je pense au Secours catholique, à la CIMAD, aux Compagnons bâtisseurs, au CCFD Terre solidaire. Bon, ils vont venir, je pense, enfin, j'espère. En tout cas, leurs nationaux sont signataires. Bon, on est au moins une dizaine déjà à être bien impliqués, je veux dire.
Oui.
Alors, évidemment, sur ces 10, il y en a qui sont plutôt du domaine de l'écologie, d'autres qui sont plus du domaine du social. Il y a la CFDT qui est plus syndicale. Bon, comment on fait pour arriver à trouver ensemble le plus petit commun dénominateur, le plus grand commun multiple, je ne sais
ouais,
pas.
Je sais bon, pas ouais.
On fait alors, on a commencé à ça, à se dire bon, regardons, prenons les 66 propositions. Et chacun, disons, on en cherche 2 ou 3 qui nous paraissent importantes.
Ouais.
Et qui nous paraissent importantes pour Montpellier, la métropole.
Mm-hmm.
On en est là, on a commencé à faire ça, on va continuer à le faire entre nous. Ça, c'est la première entrée pour trouver les bonnes mesures. La deuxième entrée, c'est de se dire, On n'est pas là simplement pour dire il y a qu'à Faucon au pouvoir public, on veut pouvoir s'impliquer. Donc quelles sont les mesures sur lesquelles nous-mêmes
on serait capable de faire du travail. Ouais.
Voilà. Mmh. Hein? Et quand on dit capable de faire du travail, ça veut dire que... si tu veux, on ira un peu plus loin tout à l'heure, là, dans les minutes qui vont nous rester. Hein? Mmh. Mais bon, cette idée qu'il faut trouver des mesures où on ne soit pas simplement en situation d'interpeller, mais on soit en situation de pouvoir proposer de notre contribution pour agir.
Oui, il faut qu'on soit force de proposition. Il faut que le pacte soit force de proposition.
Absolument. Mmh. Ça, c'est important, d'ailleurs. C'est... quand on se pose la question, le pacte, est-ce qu'on est fermé? On n'est absolument pas fermé. On va demander à des gens, je pense au Secours Populaire. Le Secours Populaire n'est pas signataire nationalement. Il se trouve ici que sur la région Occitanie, ici à Montpellier, il y a des gens du Secours Populaire avec lesquels, personnellement, moi que je les connais bien, je pense qu'ils sont tout à fait capables et intéressés à venir travailler avec nous. Ben, si possible, viendront travailler avec nous.
Ouais.
Simplement, il faut qu'ils soient OK sur cette idée-là. On n'est pas simplement là pour dénoncer, on est là, on dit au pouvoir public chiche, et on veut s'impliquer nous-mêmes. Voilà. Ça, c'est important dans la méthode. Et alors, bon, il y aura des choses sur lesquelles on dira, faites remonter au niveau national.
Oui.
On ne peut que interpeller. Mais
oui, parce que ça ne peut se faire qu'au niveau national.
Oui.
Et par contre, sur les choses qu'on peut faire au niveau local, il faut qu'on soit capable de travailler en commun, disons, avec les politiques à qui on fera les propositions, à qui on lancera les propositions.
Si je reprends l'idée que j'ai pris tout à l'heure, des étudiants pauvres.
Oui.
Bon, il faut regarder aujourd'hui qu'est-ce qu'on a comme analyse, qu'est-ce qu'on a comme diagnostic, qu'est-ce qu'on connaît sur la situation aujourd'hui.
Ouais.
Hein?
Ouais, ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Qui aide les étudiants pauvres? Qui fait avec eux? Parce que le problème, c'est de pas faire pour les gens, mais avec.
Mmh.
Hein?
C'est une marque de fabrique, ça, quand même.
Hein. Faire
oui,
avec.
Oui,
hein.
Oui, tout à fait.
Pas faire pour, hein, faire avec.
C'est quand même surprenant quand on parle d'étudiants pauvres, parce que des étudiants pauvres, normalement, ils sont boursiers. Donc, ça veut dire que là, on parle d'étudiants qui n'ont pas accès aux bourses, j'imagine, mais qui n'ont pas les moyens d'assurer la charge financière de leurs études.
C'est pas les études qui coûtent cher, c'est le logement.
Ah oui, c'est ça. Et ça, c'est un problème très montpelliérain, hein, parce
qu'évidemment,
on sait que le logement est hors de prix à Montpellier.
C'est le logement. Alors, il y a pas mal de situations de colocs à Montpellier, mais quand même, il y a une...
Et il n'y a pas suffisamment de place en
CCU. Entre la demande et l'offre de logement aujourd'hui sur Montpellier, il y a... Ça craque,
je comprends.
Hein.
Voilà. Je comprends. Alors, on a beaucoup parlé de ces 66 propositions dans le cours de cette émission, mais il y a des tas de gens qui proposent beaucoup de choses. Je sais que on a parlé du réseau Action Climat, par exemple, qui est un des membres du collectif pour une transition citoyenne. Le collectif pour une transition citoyenne a fait des tas de propositions et sur un petit peu le même principe, même si peut-être leur ouverture est moins grande que celle du pacte du pouvoir de vivre, mais sur un petit peu le même principe, ils font des propositions et ils essayent de les mettre en avant et de les faire avancer au niveau politique. Il y a d'autres exemples. Et donc, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'on voit apparaître comme ça des tas de séries de propositions proposées par différentes organisations. Mais finalement, est-ce que ça ne serait pas intéressant qu'on arrive à converger un petit peu et à se réunir, à travailler ensemble?
C'est évident, hein, c'est sûr.
Mais comment faire?
Alors, comment faire C'est le problème qu'on pose tous, toujours.
Absolument.
Hein, tout le temps.
C'est un problème récurrent.
Il y a tout plein de gens. Oui, c'est ça, la convergence.
Tout à fait.
Moi, à mon avis, il y a beaucoup de convergences qui sont possibles à deux conditions. La première condition, c'est que on converge pas simplement, c'est ce que je viens de vous dire il y a quelques instants, c'est-à-dire, on converge pas simplement pour dire, il faut au pouvoir public, il faut que vous fassiez telle chose, on est prêt à mouiller la chemise.
Ouais.
Ça, c'est la première des choses qui me paraît importante.
Ouais.
Qui se passe avec le pacte de transition écologique. Hein.
Oui, oui.
Tout à fait, la transition citoyenne. Hein.
Oui, oui.
Voilà. Ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'amène pas dans ce domaine-là des discussions, des affrontements et des conflits qui sont des conflits du domaine politique.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on n'aille pas se dire « Ah bah oui, toi, t'es pas assez révolutionnaire pour moi, t'es trop réformiste, t'es pas assez réformiste, t'es trop utopique, etc. Ben oui, mais t'as pas assez parlé de conscience de classe, et puis mon garçon, oui, mais toi, t'es de la vieille école, etc. » Bon, quand ATD Quart-Monde, pas tout seul mais avec d'autres, monte une opération comme ils l'ont fait, qui maintenant se développe incroyablement, comme les territoires zéro chômeur longue durée,
hein,
ils se posent pas la question, et fort heureusement, on leur pose pas la question de savoir si c'est révolutionnaire ou réformiste.
Mmh.
Alors, n'introduisons pas ce type de débat théorique dans notre manière de fonctionner, pas. De converger, parce que ça, on est foutu.
Oui, oui. On sait très bien.
Voilà les deux conditions qui me paraissent importantes. Cela étant, moi, là, je viens de m'exprimer à titre plutôt personnel.
Oui.
Je suis coordinateur informel d'un collectif. Je m'exprime pas au nom de ce collectif. Je peux dire au nom de ce collectif aujourd'hui. On a décidé lors de la dernière réunion, on s'est dit, tiens, on va en parler au Secours Populaire, on va en parler à GAM.
Oui.
Hein, bon, ici, là, une radio
associative,
mm-hmm. à connotation, mais à origine protestante, on connaît bien GAM, évidemment,
fait,
puisque c'est l'ancien centre social protestant.
Mm-hmm.
On veut discuter avec GAM, on veut dire à GAM, est-ce que vous viendriez avec nous là-dedans, même si GAM n'est mm-hmm. pas signataire,
oui,
c'est pas partie d'un réseau signataire nationalement.
Oui, oui. Mm-hmm.
Donc on est.
Vous êtes ouvert à toutes les.
Ah oui, c'est ouvert. Là où, encore une fois, ce qu'on veut pas, c'est qu'on se retrouve à des discussions uniquement.
Qu'on échoue sur des conflits idéologiques.
Oui,
quoi.
C'est ça. Oui, oui.
C'est vrai,
le moment.
Non. Mais de toute façon, à partir du moment où on réunit une quarantaine d'organisations, voire davantage, c'est très compliqué. Si on commence à faire rentrer de l'idéologie, c'est très compliqué d'arriver à se mettre d'accord. C'est quasiment impossible. Donc effectivement, il faut sortir l'idéologie de ça et essayer de rester très pratico-pratique.
Et
à la mesure où on sait quand même qu'on a les mêmes objectifs tous.
C'est d'autant plus compliqué qu'il y a des municipales dans
mon alors ça ne simplifie certainement pas
évidemment.
Le débat.
Et qu'il ne faut pas, et nous n'avons pas l'intention, d'être dans une écurie de l'un ou l'autre candidat
de
au municipal.
Hein,
de
course à la municipale.
De course à la municipale.
Ouais.
En revanche, très probablement, notre collectif et notre ensemble interrogera les candidats, évidemment.
Oui.
Évidemment.
Il profitera de cette effervescence politique parce que c'est toujours des périodes où il est bon de faire réfléchir ou d'obliger les politiques à se prononcer sur un certain nombre de choses, du moins.
Oui, oui.
C'est des bonnes périodes pour le faire.
Ça se fait un peu à chaque fois. Hein.
Oui, tout à fait.
Sauf que là, ce qui sera peut-être un peu différent, enfin, j'espère en tout cas, c'est que si on représente 15 structures et qu'on pose en même temps, ensemble, des questions aux candidats,
les questions peuvent être pesantes.
Oui, ils peuvent se dire que c'est important.
Ouais,
quoi.
Oui, oui, voilà. Tout à fait.
On l'espère,
fait.
En tout cas.
Tout à fait. Alors, je sais pas, il y a certainement beaucoup d'autres choses à dire sur le pacte du pouvoir de vivre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel qu'on aurait oublié ou est-ce que vous pensez qu'on a à peu près fait le tour de la question?
Je pense que c'est enfin, une chose vraiment qui moi me paraît évidente moi par rapport à mon parcours personnel
hein. Mm-hmm.
À mon parcours personnel c'est que c'est cette idée de faire se rencontrer de gens qui sont dans des qui sont des militants mais dans des sphères qui se rencontrent peu
mm-hmm.
même à l'intérieur du mouvement associatif des gens comme les CMEA ou les Franca
mm-hmm.
c'est le milieu de l'éducation populaire ou la Ligue de l'enseignement, c'est le milieu de l'éducation populaire, des gens comme Alternatiba que vous avez cité,
tout à fait,
le réseau Action Climat c'est un autre ensemble qui est plus sur les questions écologiques
sur l'écologie,
d'autres sont plus sur les questions de mode de participation citoyenne et je pense que le plus intéressant c'est justement ça c'est que là on a des mondes qui se côtoyaient, qui se parlaient un peu,
mm-hmm.
mais qui là se parlent un petit peu plus.
Ouais. Oui, ils ont été capables de mettre sur pied quelque chose de très concret.
Ça, c'est la première idée qui me paraît importante. Et la deuxième idée, c'est que on n'a pas... On a une certaine humilité. En fait, il y a trois grands types de légitimité. Il y a la légitimité des élus, c'est la légitimité de l'élection. Il y a la légitimité du citoyen, c'est la légitimité de l'existence. Je suis citoyen, donc je suis légitime à dire des choses sur ce qui se passe chez moi. Et la troisième légitimité, c'est la nôtre, c'est celle de citoyen organisé, c'est la légitimité dont je dirais c'est la légitimité de l'implication.
Oui.
Et donc ces trois légitimités, il faut qu'elles travaillent plus ensemble qu'elles ne le faisaient. Et ça suppose une chose. Une chose.
Mm-hmm.
C'est que les pouvoirs publics reconnaissent ce qu'ils ont du mal à faire. Qu'il n'y a pas qu'eux qui définissent et qui agissent pour l'intérêt général.
Oui,
Et ça, c'est une révolution. Oui. C'est une révolution. Est-ce qu'ils seront capables de la faire? Je l'espère.
Moi, il me semble qu'ils commencent à l'entendre, mais est-ce qu'ils iront au bout? Je ne sais pas. C'est pas toujours facile de...
Ils sont un petit peu obligés, à vrai
oui,
dire.
Oui, hein. Je crois qu'ils sont un petit peu obligés. La dernière question que j'aimerais vous poser, c'est moi, par exemple, qui n'appartiens à aucune organisation, si j'ai envie de participer aux travaux du pacte civique à Montpellier, comment
du
je fais?
Du pacte du pouvoir de vivre.
Hein. Du pacte de pouvoir de vivre, par contre. Le pacte de civique est, le pacte civique est
une des organisations signataires.
Voilà.
Ouais.
Si je veux participer aux travaux du pacte du pouvoir de vivre, comment je fais et est-ce que je peux, même si je fais partie d'aucune organisation? Et donc la première question, c'est en deux minutes, c'est comment je fais, et la deuxième question, c'est est-ce que je peux, dans la mesure où je ne fais partie d'aucune organisation.
La première question, comment je fais, je fais signe au coordonnateur du collectif, c'est-à-dire à Dominique Chalchely.
D'accord.
Il y a déjà des petites organisations, une Sud-Babote.
Oui.
Association de quartier.
Association de quartier, oui.
Association, il y a le Sud-Babote, suit nos travaux, ça l'intéresse, il vient en réunion.
Mmh.
Bon. Donc, au travers de petites associations de quartier, mais même quelqu'un qui n'est pas dans une association de quartier.
Oui, c'est ça, quelqu'un d'indépendant peut très bien...
Oui, il peut au minimum, on le tient au courant, au maximum de ce qu'on fait, et puis ça pourra aller plus loin, pourquoi pas, il n'y a pas... S'il est OK sur les quelques principes, les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont pas, c'est pas drastique, hein, c'est vraiment plutôt consensuel, c'est moins qu'on puisse dire.
Oui, 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 tout à fait, bah, absolument, absolument.
Alors, comment vous faites d'habitude? Vous donnez des mails
Alors, on peut donner votre mail et votre numéro de téléphone, il n'y a pas de problème.
Bon, alors mon mail, c'est chalmido... schalmido@gmail.com. Donc, je suis le coordonnateur provisoire de ce collectif sur Montpellier, aux compagnies. Et mon téléphone, c'est le 06 13 98 24 62.
Eh bien, merci beaucoup, Dominique, et à une prochaine fois pour parler de la suite, de l'évolution du pacte du pouvoir de vivre.
Très volontiers, merci à vous.
Merci, au revoir à tous.